Il y a bien sûr mille et une manières de parler de la pauvreté. Déjà, l'histoire de l'Église, quand nous voyons l'histoire de l'Église, nous voyons un petit peu que la pauvreté a été vécue d'une manière très variée et sous des formes très diverses pour chaque période, avec toujours un accent particulier marqué sur telle ou telle forme de pauvreté selon les besoins de l'Église et du monde. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, nous voyons que les croyants devaient construire l'Église, la communauté. Alors ils mettaient tout en commun et répartissaient les biens en fonction des besoins de chacun. Puis très tôt, ça a été la période du martyr. La pauvreté s'est exprimée à travers, d'une manière extrême, à travers le fait de se détacher de sa vie, de ne plus accorder de prix à sa vie par amour pour le Christ. IVe siècle, les persécutions se sont arrêtées et beaucoup de chrétiens ont choisi librement le martyre de la vie monastique. Ils sont partis au désert avec une orientation très très ascétique, un dépouillement total au prix d'une ascèse héroïque pour vaincre tout appétit charnel et pour trouver Dieu. Plus tard, nous avons un renouveau initié par les ordres mendiants, franciscains, dominicains, où là, la pauvreté est presque personnalisée, vous savez, Dame Pauvreté de saint François d'Assise. Il s'agit d'aimer la pauvreté parce que le Christ l'a aimée. Il s'agit de se configurer au Christ pauvre, de telle sorte que l'évangélisation s'appuie sur la seule grâce de Dieu, non pas sur les moyens humains. Au XVIIe, c'est le renouveau mystique, XVIe, XVIIe, le Carmel, l'école française. Et là, d'une manière assez nouvelle, on va adorer la pauvreté du Christ. Jean-Marc vous l'a dit avant-hier, on va adorer ce mouvement de descente que Dieu a opéré, notamment sous la forme de Jésus enfant, ou bien aussi de Jésus sur la croix, qui, comme le disait Catherine de Sienne avant, est mort comme un enfant. On adore l'incarnation du Verbe. On adore l'humanité de Jésus, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir. On adore surtout l'humanité de Jésus pour sortir un peu d'une mystique un petit peu trop élitiste et évanescente du siècle précédent. Nous arrivons à Thérèse, qui nous intéresse donc aujourd'hui, et qui va bouleverser absolument, radicalement, sans rien renier de la tradition et de ce qui a été vécu jusque-là, et en cela Thérèse se montre une vraie réformatrice catholique. Thérèse va bouleverser cette notion de pauvreté. Pour elle, la pauvreté, bien sûr, est d'abord spirituelle, mais elle va être complètement ordonnée à l'accueil de la miséricorde. La pauvreté, pour Thérèse, va passer, vous le savez, par la toute petitesse, par la voie d'enfance, par l'abandon. Elle en parle sous des formes variées, pratiquement à toutes les pages de ses écrits ou de ce qui nous est rapporté de ses paroles. Thérèse ouvre les temps de la miséricorde. Frères et sœurs, nous ne pouvons comprendre la pauvreté en esprit, telle que Dieu nous la donne aujourd'hui, que si nous comprenons dans quel temps nous vivons. Nous sommes dans les temps de la miséricorde. Thérèse va ouvrir les temps de la miséricorde, déjà à la fin du 19e siècle, mais surtout par son doctorat, qui en fait, je dirais, une voie autorisée et pleine d'autorité dans l'Église. La doctrine de Thérèse ne devient pas simplement une possibilité parmi d'autres, elle devient vraiment une parole d'autorité. Thérèse ouvre les temps de la miséricorde. Pourquoi ? Parce que les temps de la miséricorde dans lesquels nous sommes sont les temps de l'extrême misère. Les temps du péché, dont on pourrait dire, en paraphrasant saint Paul, surabondant. Alors, si le péché est surabondant, la grâce est surabondante. L'homme qui veut se hisser au rang de Dieu, qui décrète la mort du Père, et par là même qui s'enfonce dans un abîme de désespoir et d'angoisse. Nous sommes dans une génération égarée, perdue, qui a perdu ses points de repère, qui a perdu le sens et qui appelle d'une manière tragique un salut à laquelle elle ne croit même plus.